Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour, chers fidèles auditrices et auditeurs. Pas de doute, vous êtes sur Oblique. Et avant de détailler le sommaire, je voudrais évoquer la disparition d'un cinéaste, je l'ai appris il y a aujourd'hui, de Shinji Aoyama, qui avait donc réalisé fin 90 un film qui s'appelait Eureka. Et ce serait peut-être l'occasion de faire un audio Oblique les prochaines fois.
Oui, tout à fait. C'était un film étonnant, ça, Eureka, un film très long et...
Voilà, donc il est décédé à 57 ans, assez jeune, et ça ne va pas nous empêcher de faire l'émission. Donc bonjour Raja, bonjour Yann.
Bonjour. Salut. Manu.
Alors qu'y a-t-il donc au programme, Raja ?
Aujourd'hui on va être fidèle à notre promesse. La fois passée on vous avait promis de parler d'un film un peu oblique, mais dans un sens différent du cinéma libanais, un peu oublié aujourd'hui, mais qui avait reçu un succès assez mitigé à l'époque.
Et puis toi, Yann ?
Et au menu d'Audio Oblique, ce sera autour des musiques, des ambiances sonores, des films de Satyajit Ray.
Et puis nous écouterons donc la suite aussi de l'interview de Bertrand Mandico. Et pour ma part, j'évoquerai donc un film, Cyrano, nouvelle adaptation libre de la pièce de Edmond Rostand, sauf que là, l'homme au grand nez est remplacé par un nain.
No one knew.
Et on retrouve Adeline pour l'agenda de la semaine, donc du 31 mars au 7 avril.
Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez de la place sur votre agenda, car je vous ai encore dégoté de nombreux événements pour cette semaine. On commence par le vendredi 1er avril, rendez-vous au cinéma Utopia à 20h pour une séance unique dans le cadre du colloque « L'art et les formes de la nature ». Au programme de cette séance, plusieurs films expérimentaux autour du thème « La montagne ». Les films seront présentés par Vincent Deville, maître de conférences en études cinématographiques. La montagne, trop souvent simple figurante, passera au premier plan tout au long de la soirée, nous rappelant à quel point elle peut être autant majestueuse qu'intimidante. On enchaîne à présent avec le dimanche 3 avril à 15h. La médiathèque Émile Zola projectera le film « Une femme fantastique » de Sébastien Lelio dans le cadre du cycle « Au féminin, le cinéma contre les stéréotypes ». Ce film nous raconte le combat d'une femme transgenre qui perd son amant et décide de se battre contre sa famille et la société qui vont jusqu'à lui refuser le droit de porter son deuil. Ce même dimanche à 11h, le cinéma Diagonale diffuse en avant-première le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, Conte du hasard et autres fantaisies, qui semble marcher sur les pas précieux de Éric Rohmer. Ensuite, ça se passera le mardi 5 avril à 20h. L'association SCIFI Team 34 organise en partenariat avec le Cinémistral de Frontignan une soirée séance fantastique. Et ce sera loin d'être la dernière, puisqu'ensuite ces séances auront lieu tous les premiers mardis du mois. Pour cette première projection, l'association a choisi de projeter l'incontournable Terminator 2. Une bonne occasion de le revoir ou de le voir sur grand écran. La séance démarrera par une petite présentation du film et un quiz. Ensuite, c'est le jeudi 7 avril à 20h, rendez-vous au Ciné-Club Jean Vigo pour l'avant-dernière séance du cycle avec la projection de l'ultime Razzia de Stanley Kubrick. Pour son troisième long-métrage, Kubrick creuse la veine du film noir avec l'histoire de Johnny Clay, un jeune homme sorti récemment de prison, organisant un casse pour s'emparer de la caisse d'un champ de course un jour de grande affluence. Et enfin, c'est le vendredi 8 avril à 20h15 au cinéma Utopia que se tiendra la séance oblique numéro 4. Au programme, une soirée Lucio Fulci avec la projection du beau film du maître de l'horreur italien « La longue nuit de l'exorcisme ». Alors dans ce film, pas vraiment de nuit ni d'exorcisme, mais des infanticides de plus en plus violents dans un petit village du sud de l'Italie. La séance sera présentée par Emmanuel Legagne, si présent, et vous pourrez participer à des jeux pour gagner des DVD et des places pour la prochaine séance oblique. C'est tout pour cette semaine, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Adeline, et tout de suite Cyrano de Joe Wright.
C'est lui.
Cyrano ?
Cyrano.
Ravi de vous rencontrer, Cyrano de Bergerac.
Vous êtes un monstre. Monstre ?
Échec cinglant aux États-Unis au box-office, au point qu'il ne devait d'ailleurs pas sortir en France, directement sur les plateformes. Cyrano, transposition donc de la comédie musicale de Broadway créée par Erika Schmidt, adaptation libre de la pièce d'Edmond Rostand. Alors Joe Wright revisite un texte archi-connu en ne lésinant pas sur l'énormité de la forme, décor baroque et rococo, costumes flamboyants, photographie ultra léchée et caméras constamment en mouvement sont au service d'une mise en scène très maniérée. Alors dans ses pires moments, dans les moments les moins inspirés, ce Cyrano épouse un peu les codes publicitaires évoquant le style clinquant d'un Baz Luhrmann, vous souvenez de Moulin Rouge, sans l'hystérisation du montage. Alors sinon, rassurez-vous, l'histoire n'a pas changé. Cyrano est toujours amoureux de Roxane, qui n'est plus sa cousine dans la nouvelle version. Il brille par son intelligence et sa sensibilité hors norme, persuadé que son apparence le prive à jamais de l'amour de celle qui lui est chère. Il ne se résout pas à lui avouer sa flamme, la laissant ainsi succomber au charme du beau Christian. Ce dernier, conscient de son manque d'esprit, demande donc à Cyrano d'écrire ses lettres d'amour à Roxane. Alors dès que Roxane entonne la chansonnette, une sensation étrange s'installe. La musique paraît différente des habituelles comédies musicales. Alors pas de grandiloquence et des pattes dans la voix, juste des chansons efficaces aux arrangements subtils et des mélodies pop à la mélancolie familière. Et à ma grande surprise, le charme opère. Même les textes sont moins appuyés que d'habitude, un peu moins niais, se pliant au code certes du genre, mais avec un désir de ne pas en faire trop, de rester dans une intimité. Alors plus le film avance et plus je me dis que je connais ce chant, ces intonations. Évidemment, après quelques larmes versées, un tout petit peu, le générique défile et le mystère se dévoile. La musique est signée Bryce et Aaron Dessner, soit les membres de The National, et les textes de Matt Berninger, tête pensante du groupe, et Karine Besser. Alors appréciant particulièrement le groupe, The National, je comprends du coup ce qui m'a séduit. Donc on écoute un extrait de la bande-son.
Why can't I say anything? It never has no meaning. I can't breathe, I can't speak. I don't know what I'm feeling. That wasn't me, I don't know who that was. That was somebody.
Alors évidemment, Matt Berninger, le chanteur du groupe, ne chante pas pendant le film, ce qui a fait que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Alors, pas de trahison pour ce Cyrano, mais une relecture pop remarquablement interprétée par Peter Dinklage, le nain de Game of Thrones, et puis Haley Bennett, la révélation d'un film indépendant qui s'appelait Swallow. Après le décevant, finalement, la fille à sa fenêtre, l'inégal Joe Wright revient à son meilleur avec cette jolie sucrerie. Et si j'avais eu un peu de temps, je vous aurais aussi parlé de l'impressionnant Bruno Reidal, actuellement en salle au Diagonal, un portrait clinique, effrayant et séduisant d'un jeune homme de 17 ans qui a coupé la tête d'un de ses camarades. Et tout de suite, Yann, donc la deuxième partie de l'interview de Bertrand Mandico.
Voilà, un petit montage avec des extraits, une deuxième partie de cette interview passionnante. On en avait écouté une première partie la semaine dernière. Bertrand Mandico était questionné par Olivier Rossignol pour le webzine Culture au Point. La première partie était plus axée sur le film After Blue, Paradisal. Et la deuxième partie est un petit peu plus générale sur le cinéma de Bertrand Mandico, sur ses influences, sa mythologie personnelle. Et c'est tout aussi intéressant. Voilà. Bertrand Mandico, interrogé par Olivier Rossignol.
Avec ce film, je voulais, comme avec tous les autres films, je veux faire un prototype, quoi. Quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on voit en ce moment. Et en même temps, j'ai une culture de cinéma que j'assume, il y a des films que j'ai énormément aimés et qui m'imprègnent, donc je, je joue avec, avec la conscience de ces références, c'est-à-dire en me disant, tiens, le film va être dans ces eaux-là, quoi. Enfin, c'est comme si je mettais des piquets dans un champ, et les références sont ces piquets qui cernent le champ. Ça me sert aussi à communiquer avec mes équipes, en leur donnant des références de films préexistants, tout en me disant, attention, je ne veux pas reproduire ça, je veux vraiment créer quelque chose d'inédit. Et dans un second temps, fort de constater qu'il y a des références qui m'ont complètement échappé. Une fois que je vois le film, que je suis en montage ou même en tournage, je me dis, ah ouais, mais c'est marrant, ça évoque ça et ça, etc. Et j'assume complètement la chose, quoi. Donc il y a à la fois le conscient et l'inconscient qui travaillent. Et puis après, j'essaye d'avoir une bonne digestion et de faire surtout un film à la première personne, quoi. Mais je peux pas nier que je n'ai pas des influences, quoi. Enfin, j'ai vu des films et comme j'ai pas Alzheimer, je m'en souviens.
Mais ce qui est très beau, c'est que je trouve très personnel dans ton rapport aux références, c'est qu'on a parfois une impression de surimpression de références, mais digne de la surimpression du cinéma muet, quoi. C'est-à-dire où on a l'impression qu'en fait, il y a parfois 20 couches dans une même image, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment très particulier chez toi, en fait.
C'est vraiment de l'hybridation, c'est un cocktail de références. Effectivement, c'est se faire entrechoquer des cinématographies, des univers qu'on n'a pas l'habitude de se faire se rencontrer, quoi. C'est aussi l'utilisation de références classiques et de références plus underground ou liées à l'expérimental. Voilà, c'est comme des silex que j'entrechoque pour faire des exercices.
Quand Kate Bush sera là, il faudra bien que tu tires.
Le cinéma comme religion, le tournage comme un rite, donc tournage sur support pellicule, parce que c'est là que tout doit se concentrer au moment où je filme, tous les efforts des acteurs, des techniciens, je dois tout faire avaler par cette caméra, et je ne veux pas avoir recours à une post-production numérique, donc voilà, je travaille sur cette idée de filmage sur support pellicule. Alors c'est pas rétro, hein, c'est vraiment de l'ordre du rite, de l'alchimie, de la magie même, hein, de ce support. Mais après, moi, je peux travailler avec des rétroprojections numériques, fait à partir de collages que je fais animer, je peux avoir des LED, enfin, je vais utiliser tous les outils contemporains possibles et imaginables. C'est juste la captation de l'image qui doit passer par la pellicule, parce que j'ai l'impression, en tout cas moi en tant que spectateur, qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que restitue la pellicule, quoi.
Et on pense à des grands maîtres du studio comme Bava. Alors j'ai pensé au Vandalak, mais après je me suis dit, mais finalement, il vient de faire sa planète des vampires. Dans le sens où tu as créé une planète sur un studio de la même manière que Bava, à partir de bouts de décor d'un ancien péplum, avait recréé l'imaginaire, quoi.
Bah, Bava, c'est un modèle d'économie et d'intelligence du cinéma, quoi. C'est ce qui me fascine avec Bava, c'est que cet ancien chef opérateur a pris tous les genres à bras le corps et en a donné une lecture très très personnelle, hein. C'est une sorte d'expressionnisme pop avec des ruses cinématographiques pour réussir à tenir tête aux studios américains et à faire des films qui ont de la gueule, qui en imposent, et avec une économie de on pourrait dire de films d'auteur, quoi. Donc c'est vraiment un modèle pour moi. Voilà. C'est très présent dans mon travail, ce jeu sur les mots, ces associations improbables. Oui, on peut dire ça. Oui. J'aime bien jouer sur la confusion et le double sens des mots, la confusion des genres. En gros, j'ai l'impression d'être un cinéaste vraiment sans frontières, quoi. Je déteste être mis quelque part dans une boîte et enfermé. J'essaye toujours de me répandre et d'aller ailleurs et de créer des connexions avec d'autres types de cinéma. Alors, je suis pas dans le mainstream, hein, je suis vraiment dans le cinéma d'auteur, mais tout de même, je lorgne aussi du côté de l'heroic fantasy, du fantastique, qui sont plutôt des genres que s'approprient les studios pour faire des films grand public. Donc je joue avec cette idée aussi du cinéma grand public, quoi. Ouais, tu joues aussi avec les archétypes pour mieux les tordre, quoi.
Exactement, c'est ce qui m'intéresse, ouais, de pas reproduire les mêmes schémas à l'infini sans jamais les questionner.
C'est quoi ça ?
Je trouve que dans le couloir du cinéma français, c'est important d'ouvrir des fenêtres qui donnent sur d'autres horizons, quoi. On nous encourage à aller vers un cinéma réaliste, naturaliste, mais qui peut être très bien, hein. Je dis pas qu'il faut abandonner ce cinéma-là. Je pense qu'il faut avoir un éventail beaucoup plus vaste pour que le spectateur puisse choisir là où il veut aller au moment où il en est dans sa vie, dans sa propre histoire. Et c'est vrai que nous remettre tout le temps la tête dans la réalité alors qu'on ouvre, on ouvre les écrans et on est immergé, inondé d'images de la réalité qui finalement deviennent fiction, puisque les réalités objectives filmées n'existent pas. Parce que, quelqu'un cadre, il n'y a plus d'objectivité, il y a une subjectivité, et renvoyer à nouveau du récit là-dedans, du récit de fiction, je trouve que c'est un peu dur, un peu rude pour les gens. Alors que je pense que c'est intéressant justement de créer des métaphores, de créer d'autres imaginaires, d'autres imageries pour prendre de l'air et aller rêver, réfléchir aussi au monde dans lequel on est, avec un recul, pas être littéral aussi. Et d'autant plus que le spectateur aujourd'hui est inondé d'images, né avec l'image en mouvement, avec l'idée du montage, etc. Donc il est encore plus apte, j'allais dire, qu'au début du cinéma, à voir des expérimentations visuelles, justement parce que il a tout vu, donc il connaît la grammaire cinématographique par cœur, classique, donc on peut l'entraîner ailleurs. Donc moi je pense que c'est important, c'est un devoir des cinéastes d'essayer d'amener le spectateur ailleurs. Mais souvent c'est la question économique, quoi, qui est problématique. On a l'impression que pour déployer de l'imaginaire, il faut avoir beaucoup de pognon. Les productions américaines sont très très écrasantes parce qu'elles déploient comme ça, elles déversent des univers clinquants qui en foutent plein la vue et qui peuvent très vite ringardiser les cinéastes moins fortunés qui essayent de travailler avec l'imaginaire. Donc c'est inhibant. Et moi j'ai décidé de désinhiber par rapport à ça, d'assumer mon imagerie, de trouver le moyen de rendre ça crédible et fort, sans rougir, hein, par rapport aux super productions, en disant je suis comme ça, j'assume, et surtout en disant que c'est trop idiot d'abandonner l'imaginaire et des formes de récits parallèles à des studios qui produisent souvent des films creux, quoi. On peut être dans la fantaisie et avoir des préoccupations profondes. Moi, ce que j'aime aussi, c'est les films qui se donnent pas du premier coup, des films qui donnent à manger et à boire chaque fois qu'on y retourne, et qui ont des strates, qui ont plusieurs interprétations possibles. Tu me questionnais sur des lectures du film par rapport à la politique, par rapport à plein de choses. C'est vrai que c'est important pour moi de répondre, mais en même temps de pas toujours tout dire, quoi. Dire oui, il y a ça, mais à vous de chercher, de trouver. Enfin, c'est un film aussi, c'est comme une quête où on va chercher un trésor, et c'est le chemin qu'on fait en réalité pour trouver ce trésor est beaucoup plus important que le trésor lui-même. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes films, c'est-à-dire d'entraîner le spectateur vers un voyage où c'est le voyage en lui-même qui est le trésor et pas le résultat.
Elle ressemble à quoi, Kate Bush ? Comment elle est vraiment rancunière ?
Elle n'a pas encore vu le film à ma connaissance. Je redoute de lui montrer, non pas que je pense que ce soit une personne mauvaise mais méchante, mais ça me fait flipper parce que je suis un fan de Kate Bush et je sais pas comment elle prendrait le film. En tout cas, son univers, son imaginaire m'a beaucoup influencé et imprègne ou s'infuse dans le film, et pour moi c'était important de lui rendre un hommage un peu particulier en donnant son nom à un personnage qui est une anti-Kate Bush.
Quand Kate Bush sera là, il faudra bien que tu tires. Elle n'hésitera pas.
Merci Yann. Et puis on va enchaîner tout de suite avec Raja pour un film libanais, Un jour parfait. No one knew better than
same and they made him pay the price.
Donc merci Manu et bonjour à tous. Après vous avoir relaté lors de notre présente rubrique Cinéma Libanais les déboires du film Help ainsi que sa BO signée Ziad Saad, j'enchaîne comme promis aujourd'hui sur le film qui affiche en rôle principal ce musicien de la scène underground libanaise. Le film Un jour parfait, réalisé par Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej en 2005, né d'une coproduction libanaise, française et allemande. Il remporte plus de 5 distinctions officielles en festival, au Locarno Film Festival, à Tokyo Filmex et au Festival des Trois Continents à Nantes. Ironiquement, le titre international du film, A Perfect Day, ne traduit pas du tout littéralement le titre original, Yaumun Akhar, qui signifie un autre jour, enfin un jour comme les autres. Les événements du film ont lieu durant une seule journée de la vie de Malek, un jeune homme victime de narcolepsie, joué par nul autre que Ziad Saad, et c'est le jour où ce dernier accompagne sa mère au bureau de leur avocat pour déclarer la mort de son père disparu depuis 15 ans déjà. Les dialogues et l'histoire du fond du récit tournent constamment autour de la guerre civile libanaise. Les décors sont souvent la ville de Beyrouth, les immeubles encore criblés de balles. La majorité des critiques, analyses et entrevues concernant le film approfondissent donc le sujet de la représentation de ce conflit. On parle notamment de l'impact sur la nouvelle génération, de la cohabitation des différentes communautés libanaises post-trauma et du deuil des victimes de la guerre. Un peu oublié aujourd'hui en 2022, Un jour parfait vaut quand même le détour d'un deuxième visionnage, mais cette fois dépourvu du préjugé de la guerre. Le sujet de la guerre est déjà redondant dans la filmographie libanaise des années 90, 2000 et 2010. Deux aspects beaucoup plus prégnants du film m'intéressent aujourd'hui et lui donnent d'ailleurs son charme, l'ironie et le cynisme et la polyvalence de ce film. Le premier, c'est la sexualité, qui, omniprésente, semble poursuivre les personnages principaux. Et vu de cette perspective, le film ne fait qu'utiliser l'histoire de fond de la guerre civile comme contexte et décor pour finalement narrer la vie sexuelle de ses deux protagonistes, Malek et sa maman. Cette dernière est par exemple toujours cadrée seule, en présence d'un élément du décor représentant un objet phallique très clairement. Elle caresse son fils, qui dort nu, de manière beaucoup plus érotique que maternelle, montrant qu'elle joue à la fois le rôle d'une mère, qui se substitue au père dans une société patriarcale, mais tantôt qu'elle substitue son mari par son propre fils. De son côté, Malek est cadré tout petit, enseveli par une multitude de posters des chanteuses libanaises, provocatrices, chocs, séductrices, qui à l'époque ça avait boomé en vague dans le monde de la pop libanaise, entre 2004 et 2009. Il se fait aborder en pleine rue par des passants qui lui demandent son avis sur des sextos à envoyer à leur conquête, et en boîte de nuit, ils se font dans la foule de fêtards en tenue très sexy, au milieu desquels ils profitent pour s'endormir. Le deuxième aspect, aussi à ne pas rater de Un jour parfait, c'est l'apport de la scène underground libanaise au film. La BO est signée par le groupe de rock expérimental libanais Scrambled Eggs, les habitués du label Ruptured dont on avait parlé la semaine passée, de Ziad Naufal, et le groupe de trip-hop oriental Soapkills, avec comme compositeur nul autre que Zed Hamdan, le fondateur du collectif Lebanese Underground et figure de proue incontournable de la production de musique indépendante au Proche-Orient. D'autre part, la participation de l'artiste d'installation et de performance Rabia Amroué, comme acteur et créateur de son propre dialogue, dans une petite courte scène du long métrage, propulse la symbolique de son travail de performance sur l'absurdité des relations humaines au sein de l'absurdité de la vie sexuelle des personnages du film. Et je vous invite donc à nous partager votre avis après le visionnage. Le film est disponible en VOD, en ligne, sur Orange et Universciné, ou bien, si vous préférez, en DVD, aux éditions Tamaza Diffusion. N'oubliez pas non plus donc de visiter Lebanese Underground pour découvrir la musique indépendante de la région. En avant-goût donc une des chansons de la BO du film, Entafen, du groupe Soapkills, composée par Zed Hamdan, artiste qui sera au centre de notre prochaine rubrique. Merci Manu.
ابدا غايب تايه ناسي فكرك فين وحبك فين انت فين.
Merci Raja. Donc on termine donc avec l'audio oblique autour du cinéma de Satyajit Ray. Alors au cœur de l'actualité puisque Carlotta vient d'éditer un coffret DVD Blu-ray du cinéaste.
Voilà, tu viens de le dire, hein, un coffret Carlotta, tout frais, là, 6 films de Satyajit Ray qui s'échelonnent des années 63 à 79. 5 sur les 6 sont des années 60, hein, La Grande Ville, Charulata, Le Lâche, Le Saint, Le Héros, et un dernier, la fin des années 70, Le Dieu éléphant. Donc c'est l'occasion d'évoquer dans Audioblique quelques atmosphères sonores du cinéaste et compositeur, hein, il ne faut pas l'oublier, indien, qui a été révélé en 1955 en fait, au public mondial et à la critique avec un chef-d'œuvre absolu. C'est son premier long métrage connu en tout cas, et début d'une trilogie, un mélodrame totalement bouleversant sur l'enfance, l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte d'un personnage, une sorte d'alter ego. Il y a quelque chose de très fusionnel entre le personnage et Satyajit Ray lui-même. C'est la trilogie d'Apu. Apu, c'est le nom du personnage. C'est 3 films, La Complainte du Sentier, L'Invaincu et Le Monde d'Apu. Et pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film Le Monde d'Apu.
Ami Bolbo, j'ai été au chenita à Tse, j'ai été au Tse là-dedans.
T'as quoi
à ma gorippole. J'en ai la guibari pire HP. Alors, ma connu, nous chutons à Tagbena.
Ça, c'est la musique de Ravi Shankar, qu'on ne présente pas trop. Hein. Ravi Shankar est très connu. Comme Satyajit Ray, c'est un symbole de la modernité conciliée avec la maîtrise des formes plus académiques. On a entendu dans cette merveilleuse... C'est un disque original, hein, Satyajit Ray et Ravi Shankar, autour de pas seulement des musiques. On a entendu le sarangi et le sitar indien, mais aussi des extraits de cette très belle langue, c'est le bengali. Donc vraiment des moments parlés du film. Satyajit Ray a une relation donc assez forte avec Ravi Shankar au début, mais il est aussi musicien, il joue du sitar également lui-même, et il signera par la suite la plupart des musiques de ses films ultérieurs, jusqu'au dernier en 91, hein, Le Visiteur. Et on va écouter un extrait d'une composition de Satyajit Ray. C'est la musique de Mahanagar, c'est La Grande Ville, qui fait partie, qui est le premier film chronologiquement, du coffret Carlotta, La Grande Ville, par musique et réalisation de Satyajit Ray. Comme ça, après le sarangi et le sitar, on a pu entendre du santuri, instrument typique aussi important de la musique indienne, et une flûte que j'identifie moins bien. Un des thèmes récurrents du cinéma de Ray, c'est l'émancipation de l'individu, par l'éducation et la culture. C'est quelqu'un qui a grandi lui-même, hein, a découvert le cinéma mondial et plein d'autres choses, la littérature. Et donc, c'est très présent dans son cinéma. Et il y a le cas particulier de la femme indienne, qui est en recherche d'émancipation, d'individualité, d'indépendance dans une société évidemment rigide et sclérosée par les préjugés, par la classe, hein, les classes sociales. Donc il y a une quête de liberté qui est souvent rendue nécessaire à l'occasion d'une rencontre amoureuse dans les films de Satyajit Ray. Et une rencontre amoureuse qui se fait bien sûr hors des codes du mariage imposé notamment. C'est le cas d'un très très beau film qui s'appelle Charulata. Charulata, c'est le nom du personnage principal féminin. On en écoute un extrait.
Thank you.
Voilà, c'était donc un extrait de la musique de Charulata, film de Satyajit Ray, qui ne fait pas partie du coffret. Je dis une bêtise, il fait partie du coffret, c'est le deuxième film, il date de 64 celui-ci. On va, pour terminer cet audio oblique, écouter un dernier extrait pour un film qui, lui, ne fait pas partie du coffret. C'est un des films vraiment majeurs de Satyajit Ray, c'est un des plus connus. Et pour le coup, il fait vraiment, il laisse une place centrale à la musique et à la danse aussi. Beaucoup de scènes de danse dans le salon de musique. Film de deuil aussi, de recueillement, parce qu'il y a une mort qui est très présente dans l'histoire. La musique, contrairement à ce qu'on a pu lire par-ci par-là, n'est pas du tout de Ravi Shankar ni de Satyajit Ray, c'est de Vilayat Khan, un autre joueur de sitar, et lui aussi, il n'y a pas que des sitaristes, mais là, Satyajit Ray a fait souvent le choix de joueur de sitar. Vilayat Khan pour un extrait de la bande originale du Salon de musique. Voilà, donc c'était les musiques de Ray et le coffret Carlotta, évidemment trouvable facilement, puisqu'il vient de sortir il n'y a pas longtemps.
Merci Yann, l'émission se termine, merci Raja, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau audio oblique. Et donc pour terminer, je voudrais remercier donc Anna à la technique, les cinémas, les Utopia, Diagonale, Gaumont, Olivier Rossignol de Culture au Point, les divergences bien sûr, et puis même les absents, allez Victor et Justine, à la semaine prochaine.
Allez, salut, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.